Bonjour, je suis Sophie Guédon, fondatrice de cette seconde édition du sommet Réussir au féminin. Aujourd'hui, pour vous présenter ma conférence, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire des clés sous le lampadaire. Peut-être la connaissez-vous déjà. Donc, une nuit, un passant qui déambule sur le trottoir fait la rencontre inopinée d'un homme agenouillé qui semble chercher quelque chose sous un lampadaire. Le passant l'interroge et l'autre lui répond qu'il cherche ses clés. En bon samaritain, le passant offre de participer aux recherches, mais au bout d'une heure d'efforts, ils n'ont toujours rien trouvé. Le passant demande alors « Nous avons cherché partout et nous n'avons rien trouvé. Êtes-vous certain de les avoir perdus ici ?» Et l'homme de répondre « Ah non, non, je les ai égarés plus loin. Mais ici, c'est plus facile de chercher. Il y a plus de lumière sous le lampadaire. » Pourquoi vous racontez cette histoire? Eh bien parce que souvent nous sommes nous aussi cette personne qui cherche ses clés sous le lampadaire. Bien souvent quand nous rencontrons des difficultés, c'est vers l'extérieur que nous nous tournons pour avoir la solution, alors que la solution est à l'intérieur de nous. Pour illustrer ça, je vais vous raconter ce qui se passait avec mon plus jeune fils. Très souvent, quand il ne se sentait pas très bien, qu'il était un peu malade, rien de grave, un rhume ou quelque chose comme ça, il me disait « Ah maman, il va falloir qu'on aille chez le docteur ». Alors, je vais peut-être vous passer pour une mère indigne qui ne veut pas emmener son enfant chez le médecin, parce que j'ai été un peu réticente à l'y emmener, mais en fait, c'est parce que j'avais remarqué plusieurs fois que quand il était comme ça, un peu patraque, qu'il était juste pas bien, il n'avait pas des gros symptômes, et que finalement on l'emmenait chez le médecin, eh bien dès qu'on sortait de chez le médecin, c'était fini, il allait mieux. Il avait encore pris aucun médicament, rien que de sortir de chez le médecin, il allait mieux. Si bien qu'un jour, je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'épargner ça parce que c'était toujours compliqué d'obtenir un rendez-vous chez le médecin comme ça en urgence. Il fallait aller jusque-là, après on attendait un temps fou dans la salle d'attente. Enfin bref, c'était assez compliqué tout ça pour que simplement le médecin le regarde, le sculpte et hop, miraculeusement, il allait mieux. Donc un soir où je le couchais et qu'il me disait « Ah maman, faudrait qu'on aille chez le médecin demain, etc. » Je lui ai tenu ce langage, je lui ai dit « Mais écoute, Nathan, il s'appelle Nathan, tu sais bien que plusieurs fois on y est allé et rien que quand tu avais vu le médecin, tu allais mieux, tu n'avais pris aucun médicament. Donc en fait, ça montre bien que c'est à l'intérieur de toi que se trouve la solution. Tu crois que c'est le médecin qui te fait aller mieux, mais en fait le médecin, il ne fait rien, il fait que te parler. Donc je vais te montrer que tu peux trouver les moyens à l'intérieur de toi pour aller mieux. » Et donc je lui ai fait une petite visualisation, une relaxation, où il rentrait à l'intérieur de son corps et puis il allait soigner toutes les parties qui en avaient besoin, en s'imaginant donc être quelqu'un qui rapetissait, qui rentrait à l'intérieur de lui-même. Et en fait, je lui ai fait prendre conscience que il pouvait lui-même être son propre médecin, il pouvait aller lui-même à l'intérieur de son corps pour prendre, si je puis dire, la température, en tout cas, pour voir ce qui n'allait pas, pour rentrer en contact avec ses organes et les réparer d'une certaine façon. Et c'est ce qui s'est passé, il a fait ça pendant la nuit et le lendemain, il était complètement rétabli, comme si on avait été chez le médecin, puisque ça se passait toujours comme ça, il allait mieux avant de prendre des médicaments. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, c'est simplement pour les petits bobos, pour les petits bobos d'hiver, quoi, qui font qu'on ne va pas très bien, mais il n'y a pas non plus une maladie déclarée. Hein, je suis loin de vous empêcher d'aller chez le médecin. Simplement, mon propos était de vous faire comprendre, comme à mon fils, que vous avez à l'intérieur de vous-même tout ce qu'il faut pour aller bien, tout ce qu'il faut pour être une merveilleuse personne. Et plus concrètement, je vais vous proposer tout de suite une visualisation pour vous connecter immédiatement à la merveilleuse personne que vous êtes. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, de vérifier que vous n'allez pas être dérangé pendant toute l'heure qui suit, puisque c'est l'heure de la conférence, et de vous détendre, de fermer les yeux et de vous centrer sur votre respiration. Respirez deux ou trois fois pour bien vous détendre. Lâchez les épaules, les tensions de votre corps. Concentrez-vous sur vos sensations. Passez votre corps au scanner, par exemple du dessus de la tête jusqu'aux pieds, et observez partie par partie comment vous êtes. Et si vous avez de la tension, prenez un moment pour rester focalisé sur cette partie qui ressent de la tension. Et pendant que vous respirez, vous allez pouvoir imaginer que votre tension va se dissoudre et qu'à l'expiration, elle va partir avec le souffle qui sort à l'extérieur de vous. Et vous êtes de plus en plus détendu. Je vous propose maintenant d'imaginer que vous tenez dans vos bras un nouveau-né, un petit bébé. Ça peut être le bébé d'une personne de votre famille, le bébé d'amis, peu importe. Vous le regardez attentivement, ce bébé qui est dans vos bras, vous sentez son poids. Il est tout léger. Et il se repose sur vos bras en confiance. Peut-être êtes-vous attendri par ce bébé. Ressentez bien comme il est important. Il est important parce qu'il est vivant, tout simplement. Tel que vous le voyez comme ça dans vos bras, vous considérez qu'il a de la valeur. Et pourtant, il n'a rien fait, il n'a rien démontré, il n'a rien prouvé dans le monde aujourd'hui. Il est important pour vous, simplement parce qu'il est là, parce qu'il existe. Et maintenant, tout en gardant les yeux fermés, et en continuant à ressentir l'importance de ce petit bout, l'importance de ce petit bonhomme, je vous propose de vous mettre à la place de ce bébé. Vous devenez le petit bébé que vous étiez. Imaginez ce petit bébé que vous étiez. Vous pouvez par exemple repenser à une photo de vous bébé. Ou imaginez simplement comment vous étiez à l'époque où vous étiez bébé. Et vous voyez ce bébé que vous étiez, vous le voyez maintenant dans vos bras. Vous lui souriez et vous êtes attendri. Un peu comme si vous étiez le parent de ce bébé que vous étiez vous-même. Vous êtes ce parent qui tient ce petit bébé contre sa poitrine. Et en même temps, vous sentez l'effet que ça fait pour ce bébé d'être là, sans avoir rien à faire, sans avoir rien à prouver, porté par une personne qui l'aime. Sentez comme c'est bon d'être en confiance, apprécié, d'être reconnu sans aucun doute sur votre valeur et votre importance. D'être reconnu comme une personne simplement parce que vous existez. Ressentez comme c'est bon d'être apprécié, comme c'est bon d'être important. Gardez cette certitude que vous êtes importante. Et que vous avez de la valeur quoi qu'il arrive. C'est un cadeau de naissance. on ne perd jamais, parce qu'il n'est conditionné par rien d'autre que le fait d'être soi, d'être simplement soi-même, d'être en vie. Et maintenant, je vais vous proposer de laisser cet enfant grandir en imagination. Permettez-lui de repasser toutes les étapes de sa vie. Arrêtez-vous quelques instants à certaines étapes où il aurait eu besoin de sentir qu'il était important, qu'il avait de la valeur. Et à ces étapes-là, dites-lui avec tout votre amour, avec tout votre cœur, dites-lui, tu es important, tu as de la valeur, je t'aime. Chaque fois qu'il en a besoin dans son apprentissage, dans sa croissance, dites-lui ça, tu es important, tu as de la valeur. Je t'aime. Et faites-le grandir à son rythme jusqu'à l'âge que vous avez aujourd'hui. Prenez tout le temps nécessaire pour l'accompagner jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous serez arrivé à aujourd'hui, vous pourrez ouvrir les yeux, reprendre doucement contact avec votre environnement, bouger les bras et les jambes et vous remettre dans une posture plus dynamique. Pour vous laisser revenir à la conscience tranquillement, je vais vous lire un texte qui est attribué à Nelson Mandela. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit lui qui l'a écrit, mais en tout cas, il l'a cité plusieurs fois, si bien qu'on lui a attribué, et il dit: notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu, vous restreindre, vivre petit ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et en laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Avec ce texte, Mandela nous montre bien que nous sommes tel un diamant, brillant, radieux, talentueux et merveilleux. Il parle de notre lumière, de notre puissance. Il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Belle ascendance quand même. Et pourtant nous sommes en général beaucoup plus focalisés sur tout ce qui ne va pas chez nous que sur cette lumière qui nous caractérise et dont parle Mandela. En entreprise, par exemple, pour améliorer des résultats, on va adopter une démarche de résolution de problèmes. On va donc se focaliser sur les problèmes pour arranger les choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce sur quoi on se concentre, tout ce sur quoi on porte son attention, prend de l'importance. Donc, si on se concentre sur les problèmes, on donne de l'importance aux problèmes. On les décortique, on les analyse, et en fait, en faisant ça, on finit par ne voir que ce qui ne va pas. Ou en tout cas, on voit très bien ce qui ne va pas et beaucoup moins bien ce qui va bien. Or, quand on cherche une solution, ce qu'on veut, c'est que ça aille bien. Mais on ne cherche pas du côté de ce qui va bien. On se tourne plutôt du côté de ce qui va mal pour trouver ce qui va bien. Ça ne vous rappelle pas la petite histoire de tout à l'heure, ça ? Pour être plus précise encore, je vous propose de prendre l'exemple de la campagne présidentielle qui a eu lieu aux États-Unis en 2000 et qui opposait George Bush et Al Gore. À l'issue d'un premier débat télévisé qui les avait opposés, les observateurs faisaient remarquer que Al Gore avait été agressif et acharné. Une émission de divertissement importante l'avait parodié en se moquant de son agressivité, en imitant son accent nasillard. Il était présenté comme un bouffon plein de suffisance et de condescendance, quelqu'un qui savait tout et qui donnait l'impression de s'adresser à une classe de maternelle. En particulier, l'acteur qu'il imitait soupirait de façon exaspérée à chaque fois que celui qui jouait le rôle de Bush lui posait une question. Alors, quand il s'est préparé pour son second débat avec Bush, que pensez-vous que Al Gore ait fait ? A-t-il pensé à ses forces, à ses compétences ? A-t-il pensé à se reposer sur elles ? Non, malheureusement. Il a pris un chemin beaucoup plus classique. Il s'est mis à chercher ses erreurs pour les améliorer. Il s'est repassé l'enregistrement de l'émission qui se moquait de lui. Et il est arrivé au deuxième entretien avec la ferme intention de ne pas répéter les mêmes erreurs. Effectivement, il s'est montré plus réservé, plus absent, plus poli, beaucoup moins déterminé, beaucoup moins enclin à contrer Bush. Vraisemblablement, il mettait beaucoup de soin à ne pas paraître agressif ou arrogant. Mais certains ont dit plus tard que ce second débat avait été décisif et qu'il avait rendu un service inespéré à Bush. Le président Clinton, qui regardait Al Gore lors de ce second débat, s'était même étonné tout haut qu'il soit aussi discret. Ça ne correspondait pas du tout à sa personnalité. Et même un des assistants de Bush n'a pas hésité à lui dire à Bush qu'il venait de gagner les élections tellement Al Gore ne s'était pas présenté comme il était habituellement. Et en fait, il a agi instinctivement comme la plupart d'entre nous le font. En effet, il nous semble naturel que si nous voulons que les circonstances s'améliorent, si nous voulons améliorer nos capacités, nous devons analyser nos erreurs et les connaître. Et en fait, c'est plutôt le contraire. D'une part, comme nous venons de le voir, parce que si nous focalisons sur ce que nous ne faisons pas bien, mais nous le renforçons, mais également parce que ça n'est pas un bon plan, si je puis dire, de faire comme ça. Imaginez que vous ayez des points forts et des points faibles. Si vous allez travailler sur vos points faibles, vous allez dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à passer d'un niveau assez médiocre à un niveau un petit peu meilleur. Tandis que si vous passez du temps, la même énergie, le même temps, le même investissement financier, éventuellement si vous suivez des formations, imaginons que vous passiez le même investissement en temps, en argent, en énergie, pour passer de vos points assez bons à devenir encore meilleurs. Quand vous ferez ça, vous serez beaucoup plus visible. Si vous passez de bon à excellent, on va vous remarquer, vous allez être justement lumineux, rayonnant, vous allez faire une différence, tandis que si vous passez simplement de médiocre à moyen, ça va pas faire la différence. Donc c'est beaucoup plus économique de vous centrer sur vos points forts et de les renforcer que d'essayer d'améliorer vos points faibles. C'est une approche beaucoup moins rentable. Alors ça ne veut pas dire que vous devez ignorer vos faiblesses. Cela veut plutôt dire que vous devez trouver les moyens de gérer vos points faibles pour vous concentrer sur l'amélioration de vos points forts. Par exemple, vous associez avec quelqu'un qui est complémentaire à vous, qui est à l'aise dans ce qui vous met, vous, mal à l'aise. Vous pouvez aussi déléguer, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelque chose que personne n'aime ça. Par exemple, je n'aime pas tellement faire le ménage, mais il y a des personnes qui aiment faire ça. J'ai par exemple une personne qui m'aide à faire le ménage, et bien je vois qu'elle aime ça, elle fait des suggestions, elle prend les choses à cœur, elle est force de proposition dans ce domaine-là, et on voit qu'elle a plaisir le matin à commencer sa journée de travail. Pour elle, visiblement, ça n'est pas un problème. Donc, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas quelque chose que personne d'autre n'aime cette chose-là. De la même façon, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon dans quelque chose que personne d'autre n'est bon dans cette chose-là, heureusement. Et à l'inverse, ce n'est pas parce que vous êtes bon, vous, dans quelque chose, que tout le monde est bon dans cette chose-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je rencontre souvent. Les gens pensent que parce qu'ils font quelque chose facilement, avec plaisir, c'est donné à tout le monde, et que du coup, ça n'a pas de valeur. Non, ça pourrait tout à fait être un point fort, et c'est en tout cas quelque chose qui a de la valeur. Une activité est un point fort si vous l'exercez facilement, avec plaisir et qu'elle donne toujours d'excellents résultats. Alors, comment faire pour trouver vos points forts ? Eh bien, avant d'aller plus loin sur ce point, j'ai envie de vous parler de la parabole des talents. La parabole des talents raconte qu'un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs pour leur remettre sa fortune. À l'un, il donna 5 talents, 2 à un autre et 1 seul au troisième. En faisant cela, il donnait à chacun selon ses capacités. C'est ce qui est dit en tout cas dans la Bible. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents alla les faire produire et en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un seul, lui, il s'en alla faire un trou en terre et il enfouit l'argent de son maître. Après un long moment, le maître de ses serviteurs revient et il règle ses comptes avec eux. Donc il les appelle tous. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avance et il présente les 5 autres talents qu'il avait gagnés. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 5 talents. Voici 5 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, lui dit son maître. Sur peu tu as été fiable, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui avait reçu 2 talents. Seigneur, dit-il, tu m'as remis 2 talents. Voici 2 autres talents que j'ai gagnés. C'est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître. Sur peu tu as été fiable, sur beaucoup je t'établirai. Entre dans la joie de ton Seigneur. Vient ensuite celui qui détenait 1 seul talent. Seigneur, dit-il, j'ai appris à te connaître pour un homme âpre au gain. Tu moissonnes où tu n'as point semé et tu ramasses où tu n'as rien répandu. Aussi j'ai craint. Je suis allé cacher ton argent dans la terre. Le voici, tu as ton bien. Mais son maître ne fut pas content du tout. Il lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je ramasse où je n'ai rien répandu. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, j'aurais recouvré mon bien avec un intérêt. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à tout homme qui a, l'on donnera et il aura du surplus. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera ce qu'il a. Et ce propre à rien de serviteur, jetez-le dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Dans ce texte, on peut voir que le maître encourage ses serviteurs à exploiter ce qu'il leur a donné. Il paraît très dur, en tout cas, il leur demande bien de ne pas garder aux choses qu'ils ont reçues. Il attend d'eux qu'ils développent leurs dons. Alors, bien sûr, à l'époque de cette histoire, le talent était une monnaie, mais le texte reste intéressant à notre époque. Le talent aujourd'hui définit plutôt une aptitude remarquable. Le message de la parabole des talents semble dire que nous sommes là pour réaliser au mieux les talents que nous avons reçus à la naissance et pas pour les garder bien au chaud sans les utiliser. Donc, comment faire pour trouver vos points forts, pour trouver vos talents? Eh bien, il va falloir partir à la recherche de vous-même. Et dans cette quête de connaissance de soi, il existe un outil très intéressant qui s'appelle la fenêtre de Johari. C'est un schéma qui a été créé en 1960 par 2 chercheurs en sciences humaines, Joseph Luft et Harrington Ingram, dont les prénoms ont servi à créer le mot Johari. Jo comme Joseph et Harry comme Harrington. Alors voilà à quoi ressemble la fenêtre de Johari. Vous devez normalement la trouver sur le site, mais je vais vous l'expliquer au cas où vous n'auriez pas accès à l'image. Donc il s'agit d'un carré ou d'un rectangle coupé en 4, hein, donc on se retrouve avec 4 carrés. Dans la colonne de gauche, en haut, donc dans le carré en haut à gauche, vous avez la zone publique. La zone publique correspond à ce que je sais sur moi et que je montre aux autres. En dessous, vous avez la zone cachée. C'est ce que je sais sur moi, mais que je cache aux autres. Donc, du côté gauche, il y a ce que je sais sur moi et que je montre aux autres. Il y a ce que je sais sur moi et que je cache aux autres. Et du côté droit, en haut à droite, vous avez la zone aveugle. La zone aveugle, c'est que je ne sais pas sur moi, mais que les autres connaissent. Et à droite, en bas à droite, on est toujours dans la zone, là on est dans la zone inconnue, et on est toujours dans ce que moi j'ignore, mais c'est aussi ignoré par les autres. Donc, à gauche, zone en haut, zone publique, ce que je sais sur moi et ce que je montre aux autres. En bas, zone cachée, ce que je sais sur moi et que je cache aux autres. À droite, zone aveugle, ce que je ne sais pas sur moi mais que les autres connaissent. Et à droite, en bas, zone inconnue, c'est ce qui est inconnu de moi et qui est également inconnu des autres. Donc vous avez les informations dont la personne dispose sur elle-même, qui sont la zone publique et la zone cachée, et les informations dont elle ne dispose pas, la zone aveugle et la zone inconnue. Et dans ces informations dont elle ne dispose pas, il y en a qui sont accessibles aux autres dans la zone aveugle, et il y en a que personne ne connaît dans la zone inconnue. Alors, je vais vous proposer de réfléchir à quelle est votre zone publique. Que diriez-vous de vous là tout de suite? Je vous propose de prendre un papier et un crayon et de dire ce que vous diriez de vous tout de suite si on vous le demandait. À votre avis, quels sont vos principaux traits de caractère, vos talents, vos compétences, tout ce qui vous caractérise? Alors, je vous donne quelques minutes et vous écrivez deux, trois choses. Bon, vous pourrez toujours approfondir plus tard. Mais là, commencez à laisser venir tout ce qui vous vient spontanément sur ce que vous connaissez de vous, ce que vous connaissez de vous et que vous êtes prêt à montrer aux autres. Alors, maintenant, nous allons voir quelle est votre zone cachée. Donc ça, c'est ce que vous savez de vous, mais que vous n'avez pas envie de révéler aux autres. En quelque sorte, c'est votre part d'ombre. On en a tous une, rassurez-vous, c'est pas la peine de la cacher. Il y a toujours des choses que l'on sait de soi, mais que l'on n'a pas vraiment envie d'étaler devant tout le monde. Mais c'est important, même si vous n'avez pas envie d'en faire état devant tout le monde, hein, ce que je comprends très bien, il est important que vous en soyez conscient. Et un indice pour trouver votre zone cachée, c'est souvent, ce sont des choses que vous ne supportez pas chez les autres. Réfléchissez un peu là, maintenant, tout de suite, on va continuer l'exercice. Réfléchissez à des choses que vous ne supportez pas chez les autres. L'orgueil de telle personne, sa façon de se mettre en avant, l'avarice d'une autre, la paresse, enfin, peu importe. Il y a certainement tout de suite là des choses qui vous viennent à l'esprit que vous ne supportez pas chez les autres. Notez-les. Et maintenant, demandez-vous si vous-même, vous n'avez pas aussi ces éléments. Alors bien sûr, c'est pas une question, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la peine de s'attacher à ce que nos points faibles, mais c'est intéressant en connaissance de soi de se dire, tiens, ben peut-être que si cette chose-là m'agace chez tel autre, peut-être que je ne suis pas non plus totalement exempt de cette caractéristique-là. Alors, pour aller plus loin dans notre connaissance de nous-mêmes, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher aussi du côté des zones situées à droite du cadran, dans la zone aveugle tout du moins, puisque dans l'autre, personne ne sait rien à votre sujet, ni vous ni les autres, mais dans la zone aveugle, il y a des choses que vous ne connaissez pas, mais que les autres connaissent de vous. Et celle-là, du coup, c'est assez facile d'atteindre l'information puisqu'il n'y a qu'à demander. Alors pour ça, je vous suggère de poser trois questions à vos proches ou aux personnes de votre entourage. Alors bien sûr, vous n'allez pas le faire maintenant, mais vous pouvez noter les questions et dès que la conférence sera finie ou bien demain, vous pourrez demander, ou plus tard, vous pourrez demander à votre entourage ce qu'ils pensent de vous. Et donc ces trois questions sont... Quand vous pensez à moi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? C'est une question assez vague, mais c'est intéressant de voir ce qui va spontanément venir à l'esprit des autres. Donc, quand vous pensez à moi, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Ensuite, deuxième question, si vous deviez faire appel à moi pour quelque chose d'important, ce serait quoi? Je répète, si vous deviez faire appel à moi pour quelque chose d'important, ce serait quoi? Et donc là, par exemple, les gens vont vous répondre, ben, par exemple, si je devais partir en vacances, je te confierais mon enfant. ou je te confierai mon chien. Alors évidemment, ça montrera des choses différentes. Si on vous dit qu'on vous confie son enfant, c'est sans doute parce qu'on a très confiance en vous, ou en tout cas qu'on sait que vous savez bien vous occuper des enfants. Si on vous confie un chien, peut-être que c'est parce que vous savez très bien vous occuper d'un animal, mais peut-être que ça montre qu'on a moins confiance en vous que si on vous confie un enfant. Bon, maintenant, ça, il ne faut pas non plus extrapoler plus que ça, mais par contre, on peut aussi vous dire, je vous confierai de t'occuper de mon jardin, ou je te confierai une somme d'argent, enfin, je ne sais pas. Mais cette information, vous pouvez y réfléchir pour voir ce qu'elle dit de vous. Elle dit certainement que les autres ont décelé une compétence chez vous et que c'est pour ça qu'ils vont vous confier cette chose importante. Et puis, dernière question, quel talent me reconnaissez-vous? Je répète, quel talent au pluriel me reconnaissez-vous? Alors, c'est un exercice pas toujours évident qui peut nous faire sortir de notre zone de confort. Tout d'abord parce que c'est pas toujours facile de demander, et ensuite parce qu'on peut ressentir de l'appréhension vis-à-vis des réponses que l'on va récolter. Et en réalité, je vous rassure tout de suite, c'est un exercice que je propose souvent dans l'exercice de ma profession et qui suscite invariablement une grande satisfaction pour la personne qui s'est ainsi mise sur le grill. Vous serez surpris de constater la bienveillance des autres à votre égard, ainsi que la justesse, la richesse des propos, des réponses qui sont apportées. C'est vraiment un cadeau à vous faire parce que les gens vous connaissent beaucoup mieux que vous ne le pensez. Très souvent, on me dit « Ah bon, je ne pensais pas que ça se voyait. » Au fond de moi, je savais bien que j'étais comme ça, mais je ne pensais pas que ça se voyait. Donc, eh bien, si, c'est les autres le voient. Alors, un petit conseil, choisissez des personnes aussi bien dans votre environnement familial et amical que dans votre contexte professionnel, surtout si vous avez envie d'évoluer professionnellement. C'est important à ce moment-là d'avoir des gens dans le contexte professionnel. C'est peut-être moins facile, on a peut-être plus d'appréhension, mais c'est important de demander aussi, évidemment, si vous voulez évoluer dans le cadre professionnel, c'est indispensable de demander à des gens qui vous connaissent dans le contexte professionnel. Pas forcément vos collègues de travail, mais des gens qui vous ont connu quand vous étiez dans un autre emploi, ou quand vous étiez aux études et que vous faisiez des travaux de groupe, ou dans des situations similaires à celles rencontrées dans le monde du travail. Par exemple, dans la vie associative, vous pouvez exercer des responsabilités très similaires à celles qu'on exerce dans le travail. Si vous voulez, vous pouvez proposer aux personnes d'interroger, de répondre de façon anonyme, ce qui pourrait faciliter les choses, mais en général, elles déclineront la proposition, elles vous diront très facilement ce qu'elles pensent de vous. Ça se passe vraiment très très bien et je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment réjouissant. Quand vous aurez récolté les réponses qu'on va faire à votre sujet, je vous conseille de dépouiller cela en réfléchissant aux questions ci-dessous. À quoi êtes-vous spontanément associé? Quand on parle de vous, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent? Et par rapport aux choses importantes pour lesquelles on pense à vous, qu'est-ce que cela dit de vous? Comme je vous le disais tout à l'heure, si on vous confie les enfants, ça peut être parce qu'on voit que vous savez bien vous occuper des enfants aussi, mais c'est aussi qu'on est prêt à vous confier quelque chose de précieux. Un enfant, c'est quand même quelque chose de précieux, on ne va pas le confier à n'importe qui. Donc ça dit que vous êtes importante pour cette personne et qu'on vous fait confiance, qu'on vous donne une grande confiance. Alors, pour la question quel talent vous attribue-t-on? Ne cherchez pas à en avoir énormément. Bien sûr, ça peut faire plaisir, ça peut paraître valorisant d'avoir des tonnes de qualités, mais ce ne seront que des qualités. Ce que nous recherchons plutôt, ce sont des talents, c'est-à-dire des choses qui font vraiment la différence. Et on n'en a pas 36 000. Hein. Il y a 3, 4 talents qui vont vous caractériser, c'est déjà bien. Si on est dans des dizaines de choses, là on est plus dans des qualités, c'est-à-dire des choses que les autres ont aussi bien que vous. Le talent, c'est quelque chose qui vous caractérise vous et qui vous rend différent des autres. Et vous ne pouvez pas être différent des autres sur plein plein de qualités parce que bien sûr, on est chacun unique, mais il y a quand même des choses qui sont communes à plusieurs personnes. Le talent, c'est vraiment ce que vous allez faire admirablement. Et demandez-vous aussi, quand vous allez dépouiller, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? C'est toujours intéressant d'aller, de creuser dans les choses qui vous ont étonné. Alors, sur le chemin de la connaissance de soi, c'est important aussi de regarder qui nous entoure. On dit qui se ressemble s'assemble, ou des fois ça m'arrive de me tromper, qui s'assemble se ressemble, je ne sais pas, non, c'est plutôt qui se ressemble s'assemble, je crois. Et donc, allez chercher du côté des gens avec qui vous vous assemblez. Notez le nom de toutes les personnes que vous admirez, par exemple. Allez voir du côté de votre famille, de vos anciens professeurs ou de vos anciens camarades de classe. Allez voir du côté de vos amis, de vos collègues de travail, de personnes exerçant une profession qui vous attire. Vous pouvez aussi regarder les vedettes du sport ou de la chanson, des artistes, des personnalités en vue, des héros de livres ou de dessins animés, qu'ils aient des personnes qui ont soit existé ou aussi des personnages de fiction. Ne vous limitez pas, faites une liste et cette liste peut comporter autant de noms que vous le souhaitez. Donc, je vous donne cette consigne de noter sur une liste tous les noms des gens que vous admirez, que vous appréciez. Ensuite, en face de chaque personne, je vais vous proposer de noter les qualités qui caractérisent cette personne. Pour la première personne, choisissez les qualités ou les traits de caractère que vous appréciez chez cette personne. Par exemple, si vous avez mis maman, vous pouvez dire maman est honnête, maman est généreuse, maman est joyeuse, maman est organisée. Tout ce que vous voulez. Puis vous allez passer à la deuxième personne et vous allez faire la même chose. Papa, par exemple, si c'est votre père que vous avez pris, vous allez de nouveau noter papa est gentil, papa est courageux, papa est drôle. Notez tout ce qui caractérise votre papa et vous faites ça pour toutes les personnes. Et quand vous aurez observé toutes les qualités que vous attribuez à tout le monde, eh bien, vous pourrez voir que certaines qualités reviennent plus souvent que d'autres. Et là encore, demandez-vous quelles sont ces qualités, qu'est-ce qu'elles disent de vous. Et là, de la même façon que pour la zone cachée, je vous avais dit que les choses que vous n'aimiez pas chez les autres, que vous ne supportiez pas chez les autres, c'était certainement des choses que vous aviez aussi à l'intérieur de vous-même. Eh bien, ici, c'est la même chose. Ces caractéristiques que vous avez notées chez les autres, si vous les avez observées, si elles vous ont touché, c'est parce qu'elles résonnent en vous. Et si vous reconnaissez ces qualités chez les autres et qu'elles résonnent en vous, c'est parce qu'elles existent aussi en vous. Sinon, vous ne seriez pas capable de les reconnaître chez les autres. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est, plus tard, pour terminer cet exercice que vous pourrez réaliser après la conférence, ce sera de vous procurer un petit carton, par exemple un carton de 6 x 10 cm, et de recopier sur ce carton vos 3 ou 4 talents. Vérifiez bien que vous puissiez vous dire à chaque fois « c'est moi ça ». Hein, mais notez bien les 3 ou 4 talents que vous avez relevés sur un des deux côtés du carton et de l'autre, notez toutes les qualités que vous vous êtes découvertes en observant les autres et en observant les qualités que vous retrouviez chez les autres. Je vous conseille de garder ce carton avec vous et de le relire souvent. Habituez-vous à l'idée que ces qualités sont les vôtres, qu'elles décrivent effectivement qui vous êtes, votre nature authentique. Essayez pendant une semaine de faire la démonstration consciente que ces traits de caractère sont chez vous. Remarquez les occasions particulières au cours desquelles vous manifestez ces qualités et ces caractéristiques et observez comment vous vous sentez à ce moment-là. Appropriez-vous toutes ces merveilleuses qualités. Vous verrez que c'est comme ça que vous attirerez le succès à vous. C'est vraiment en étant qui vous êtes, Hein, le titre de la conférence, c'était « Soyez vous-même, c'est votre meilleure stratégie de succès ». C'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est quand vous acceptez d'être qui vous êtes. Alors, bien sûr, il faut le découvrir, il faut savoir qui vous êtes. Et donc, c'est ce que je vous ai proposé dans cet exercice. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est d'accepter qui on est. D'accepter qui on est. Oser croire que l'on est cette merveilleuse personne. Et je vais vous proposer à la fin de la conférence un exercice de visualisation à nouveau pour vous permettre d'incorporer, d'intégrer les qualités que vous méritez d'avoir. Et donc, c'est super important de vous autoriser à être une personne merveilleuse. Comme on l'a vu dans le texte de Mandela, ça n'est pas en étant modeste, en ne voulant pas être mieux que les autres, que vous allez non seulement être heureux, mais que vous allez rendre service au monde. Le monde a besoin, moi mon plus grand rêve, c'est que tout le monde puisse être là où il veut être, que tout le monde puisse se réaliser pleinement. Vous avez déjà imaginé ce que serait la vie si tout le monde accédait à ce dont il rêve, ce qu'il a envie. Je suis sûre qu'il n'y aurait plus de guerre, on n'aurait pas de raison d'être jaloux des autres. Si on avait tous la possibilité d'exprimer vraiment qui on est. Et donc, c'est ce que je vous encourage à faire avec cette conférence, c'est de vous autoriser à être vous-même. D'une part, d'abord de partir à la recherche de qui vous êtes, et ensuite de vous autoriser à être qui vous êtes. Vous êtes une personne formidable et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos désirs. Les richesses que vous avez à l'intérieur de vous, manifestez-les à l'extérieur de vous, et c'est comme ça que vous attirerez d'autres richesses qui peuvent être matérielles, mais qui peuvent être aussi des richesses de rencontres avec d'autres personnes, des richesses de réalisation, d'actions, de projets que vous n'auriez pas pensé pouvoir mener. Donc, allez-y, osez être vous-même, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et que vous puissiez faire aussi au monde entier d'ailleurs. Alors, pour clore cette conférence, je vais vous proposer de faire à nouveau un exercice de visualisation pour vous permettre d'intégrer ces merveilleuses qualités qui sont en vous. Alors, pour ça, je vous demande de lâchez vos crayons, etc., de bien vous asseoir au fond de votre fauteuil et de prendre un moment pour vous intérioriser. Commencez par respirer calmement, respirez profondément. Comme on l'avait fait tout à l'heure. Prenez conscience de votre respiration. Passez vite fait le scanner pour vérifier qu'il n'y a pas de tension à l'intérieur de vous, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Vous passez en revue toutes les zones de votre corps pour vérifier que tout est bien détendu. Et maintenant, imaginez que vous avez en face de vous un autre moi, le moi le plus beau que vous puissiez imaginer, la plus belle personne que vous êtes. Vous avez atteint le niveau que vous vouliez avoir pour vous-même. Vous avez toutes les qualités que vous rêvez d'avoir. Prenez un moment pour vous sentir totalement heureux avec votre moi authentique. Observez-le. Observez comment il se tient, comment il respire, Comment il sourit. Observez comment il marche. Observez comment il parle. Regardez comment il parle aux autres. Comment il interagit en société. Comment il gère les problèmes. Comment il atteint ses objectifs. Regardez-le vivre. Ressentez toute l'admiration que vous avez pour lui, tout l'amour que vous avez pour lui. C'est vraiment une personne à qui vous aimeriez ressembler. C'est vraiment la personne que vous aimeriez être. Imprégnez-vous bien de toute l'admiration que vous ressentez pour cette personne. Et maintenant, acceptez l'idée que cette personne, c'est votre moi authentique. C'est votre moi le plus profond. C'est vraiment qui vous êtes au plus profond de vous-même. Ressentez combien, comment vous êtes cette personne. Prenez sa place pour ne faire plus qu'un avec lui. Maintenant que vous vous êtes glissé à l'intérieur de votre moi authentique, voyez à travers les yeux de votre moi authentique. Entendez à travers ses oreilles. Sentez à travers son corps, ressentez les sensations qu'il peut ressentir. Sentez comme cela fait du bien de vivre la vie comme ce moi authentique. Voyez comment il mène sa vie. Programmez-vous dans les semaines futures. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant que vous êtes enfin devenu qui vous êtes vraiment, que vous êtes enfin devenu votre moi authentique. Imaginez à quel point votre vie devient différente quand vous vivez de plus en plus selon votre moi authentique. Et vous pouvez même imaginer qu'avec votre moi authentique, Vous pouvez repartir dans des situations passées pour les revivre différemment. Et en vivant ces situations passées différemment, vous pouvez accéder à plus de sérénité. Et vous pouvez amener cette sérénité, cette confiance, cette joie intérieure. Vous pouvez les amener avec vous dans votre présent. Je vous propose de bien ressentir à l'intérieur de vous toutes ces émotions positives. D'être devenu votre moi authentique, d'avoir endossé la peau de votre moi authentique, de vous être réconcilié d'une certaine façon, de fusionner avec ce moi authentique. Goûtez bien à l'intérieur de toutes vos cellules toutes les émotions que vous ressentez en étant votre moi authentique. Et pensez maintenant à votre futur. À ce que vous allez faire dans les jours suivants, maintenant que vous avez intégré toutes les qualités de votre moi authentique, comment votre vie sera différente? Comment votre vie sera plus tranquille, plus sereine, plus évidente? Je vous propose de vous projeter dans les jours tout proches, tout d'abord, demain après-demain, de bien intégrer la sérénité, la joie, la confiance. L'amour. Toutes les qualités qui peuvent vous venir à l'esprit à propos de votre moi authentique. Comment la vie va se dérouler à partir du moment où vous intégrez, où vous avez en vous-même toutes ces qualités. Et puis vous allez pouvoir vous projeter à la semaine prochaine et au mois prochain. Vous pouvez passer en revue les échéances que vous aurez à plus long terme dans le trimestre prochain, dans les 3 mois prochains, dans les 6 mois prochains. Et comment vous serez à la fin de l'année? Comment vous serez à la fin de l'année suivante et toutes les autres encore? Projetez-vous dans un futur qui ne cessera pas. Vous aurez toujours avec vous ce trésor de richesse que vous venez de recontacter maintenant. Et je vous propose de laisser tout cela partir dans un long chemin, loin, 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 loin devant vous. Et vous ne voyez sans doute pas la fin parce que c'est tellement loin. Vous allez petit à petit revenir à ici et maintenant, dans votre vie de tous les jours, sans ouvrir les yeux pour l'instant. Vous allez vous repositionner dans votre chaise, vous allez vous étirer, étirer les bras, étirer les jambes. Peut-être vous secouez un petit peu pour remettre de la mobilité et de l'énergie dans votre corps. Et enfin, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et regarder autour de vous avec un regard complètement différent, en vous sentant forte, remplie de merveilleuses choses, rempli de votre moi authentique et de tout ce qu'il va vous permettre de faire. Alors voilà, cette conférence se termine. Si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez évidemment laisser des messages dans le site Réussir au féminin. À la fin du sommet, sachez que le blog Réussir au féminin va reprendre sa place en cours d'année. Quand nous ne sommes pas dans la période du sommet, il y a un blog Réussir au féminin que les experts viennent alimenter. Donc vous pourrez connaître les informations qui concernent les experts. Vous en saurez plus sur eux puisqu'ils viennent de temps en temps donner des articles. Vous pouvez également, si vous voulez connaître mes autres activités, aller sur le site coachenréussite.com. Coach en réussite tout attaché, sans accent, coachenréussite.com, qui présente mes activités de coaching pour les personnes qui veulent, intitulées pour les personnes qui veulent accéder à leur job de rêve. Alors, c'est pas seulement ça, c'est leur job de rêve, mais c'est par extension tout ce qui met du rêve dans leur vie, le job, parce qu'on passe énormément de travail, énormément, pardon, de temps au travail, mais également tout ce qui est relation, tout ce qui est relation affective, amicale, relation à soi, comment prendre soin de soi. Vous pouvez télécharger sur ce site un petit document qui vous explique comment vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Alors donc, je vous souhaite une très très bonne, un très très bon week-end, une très très bonne semaine et plein de bonnes choses maintenant que vous avez recontacté votre moi authentique. Et à bientôt dans les commentaires et sur le site coachenréussite.com. Au revoir.